La Bible. Feuille au jeûne numéro 55. Avons-nous jamais pensé au miracle qui nous a conservé la Bible intacte à travers les siècles, protégée jalousement par son divin auteur contre toutes les persécutions et tous les efforts de l'ennemi pour la détruire, ou du moins l'amoindrir? Savons-nous comment elle a été traduite, imprimée, distribuée, colportée? Fixer quelques points à ce sujet contribuera à affermir notre foi dans les Saintes Écritures, à raviver notre zèle pour nous en nourrir, et produire dans nos cœurs un hommage de reconnaissance profonde envers celui qui, par elle, nous a pleinement révélé ses pensées d'amour et ses plans de grâce. Brièvement, rappelons ce qu'est la Bible, du grec Biblia, le livre, la parole de Dieu. La vérité, Jean chapitre 17 verset 17. Un feu, un marteau qui brise le roc, Jérémie chapitre 23 verset 29. Une lampe et une lumière, Psaume 119 verset 105. Vivante, opérante, pénétrante, Hébreux chapitre 4 verset 12. Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, 2 Timothée chapitre 3 versets 16 et 17. Elle ne peut être anéantie, Jean chapitre 10 verset 35, et elle demeure éternellement, Ésaïe chapitre 40 verset 8. L'autorité de la Bible ne signifie pas despotisme, domination. Au contraire, délivrance, liberté. Ceux qui l'acceptent connaissent la vraie liberté. Affranchis de tous et de tout, passion, péché, tel est le croyant soumis à la Bible. C'est toujours en revenant à l'autorité des Écritures que les réveils se sont produits. Ce qui donne l'autorité à la Bible, c'est son inspiration divine. Pour être soumis à son autorité, il faut avoir une foi entière en cette inspiration, elle-même confirmée dans divers passages, 2 Timothée chapitre 3 verset 16, 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13, et 1 Corinthiens chapitre 2 verset 13. Être inspiré, c'est avoir reçu l'insufflation de l'Esprit de Dieu. Les nombreuses personnes que Dieu a employées pour communiquer ses pensées ont écrit directement sous l'action de l'Esprit de Dieu. La Bible a été composée en des lieux divers, dans un désert, dans une prison, dans une île, dans un palais, dans une ville. À Rome, en Grèce, en Mésopotamie, en Palestine, en Égypte, etc. À des époques différentes, 2500 avant Jésus-Christ à 100 ans après Jésus-Christ. Par des personnes diverses, rois, bergers, pêcheurs, législateurs, cultivateurs, etc., au nombre d'environ 40, qui, pour la plupart, ne se sont jamais connus et parfois n'ont pas même lu ce que les autres avaient écrit. Et pourtant, la Bible forme un seul tout merveilleux. N'est-ce pas une preuve irréfutable de son origine divine, Dieu en étant le suprême auteur? L'Ancien Testament, écrit de 1500 à 400 avant Jésus-Christ, contient 39 livres, tous originellement en hébreu, sauf de courts passages. Moïse, le premier écrivain, vivait 3 siècles avant la destruction de Troie. Les fouilles et les inscriptions ont confirmé ces assertions. Les pierres d'Égypte et d'Assyrie proclament la vérité des pages inspirées. On ne possède plus les originaux de l'Ancien Testament, mais par contre 1400 à 1500 manuscrits, la plupart datant de 1000 à 1400 après Jésus-Christ, quelques-uns remontant jusqu'au IVe siècle. Ces manuscrits sont des copies faites par les massorètes, docteurs juifs, qui ont exécuté leur travail avec une minutie extraordinaire, Une faute de lettre rendait le manuscrit inutilisable. Pour s'assurer de l'exactitude de leur copie, ils comptaient les lettres ALF 42377, BBET 38218, etc. À part les manuscrits, on possède encore environ 10 targums, traduction partielle de l'Ancien Testament chaldéen ou araméen, avec quelques adjonctions explicatives, dont les principaux sont le Targum Onkelos, écrit 60 ans avant Jésus-Christ, comprenant le Pentateuque. Le Targum de Jonathan, du début de l'ère chrétienne, contenait les prophètes et les livres historiques. Le Targum de Joseph l'Aveugle, 4e siècle, avec les psaumes, proverbes, cantiques des cantiques, ecclésiastes. Finalement, nous avons encore diverses traductions de l'Ancien Testament. La plus ancienne, 285 avant Jésus-Christ, dite des Septante, en grec, est due à 72 savants juifs d'Égypte. Au temps du Seigneur, elle se lisait dans les synagogues, de préférence au texte hébreu, la langue hébraïque étant déjà à cette époque une langue morte. La Peucitot, la fidèle, version syriaque de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, date du 1er siècle. La Vulgate, en latin, faite par Jérôme entre 390 et 404, quoique défectueuse en main passage, offre le grand intérêt d'avoir été directement traduite de l'original hébreu. Tandis que les versions latines antérieures n'étaient que des traductions des Septante. Elle contient aussi le Nouveau Testament. Il y a encore plusieurs autres versions en grec, arménien, éthiopien, latin, datant du 4e au 9e siècle. En comparant les manuscrits, les targums, les traductions, on ne trouve pas une seule variante compromettant l'authenticité d'un seul passage important de l'Ancien Testament. Les petites variantes ne touchent pas la doctrine de l'Écriture. N'est-ce pas la meilleure preuve qu'aujourd'hui encore nous possédons vraiment un texte fidèle, prouvant de quelle manière merveilleuse Dieu a veillé à ce que sa parole nous parvienne telle qu'elle est sortie de sa bouche? On a toutes les raisons de croire qu'Esdras, environ 450 avant Jésus-Christ, rassembla et coordonna les différents livres de l'Ancien Testament. Seul Malachie a été ajouté plus tard. La division en chapitres et en versets n'a été effectuée qu'à la fin du Moyen Âge. Passons maintenant au Nouveau Testament, écrit entièrement en grec. Les originaux n'ont pas été conservés. Par contre, on possède aujourd'hui plus de 2500 manuscrits ou fragments de manuscrits, dont les principaux sont le Sinaïtien, 4e siècle, découvert par Tichan d'Orve dans un couvent du Sinaï. Le manuscrit alexandrin, Ancien Testament et Nouveau Testament, écrit vers la fin du 5e siècle, qui se trouve depuis Charles Ier au British Museum à Londres. Le manuscrit du Vatican à Rome, date du 4e siècle. Le Codex Ephraim, 5e siècle, à la Bibliothèque nationale de Paris, est plus ancien que l'alexandrin. Le Codex Bezae, contenant les évangiles et les actes datant du 6e siècle, a été trouvé en 1562 dans un monastère et donné en 1581 à l'université de Cambridge par Théodore de Bèze. À ces manuscrits s'ajoute un grand nombre de fragments très importants du Nouveau Testament, la plupart des épîtres de Paul entre autres. Trouvés dans les papyrus d'Égypte depuis le début du XXe siècle et antérieurs à nos plus anciens manuscrits. Relevons aussi que les écrits des pères de l'Église du IIe siècle, Irénée et Clément d'Alexandrie, Théophile d'Antioche, au IVe siècle, Jérôme, Augustin, Chrysostome, Grégoire de Nyssa, etc. Renferme des citations si nombreuses du Nouveau Testament, qu'on pourrait par leurs moyens en reconstituer une notable partie. Mentionnons encore les écrits de Justin Martyr, 1er siècle. Clément de Rome, en 93, contemporain de l'apôtre Jean, qui écrivit une épître de 59 chapitres aux Corinthiens, où il cite Matthieu, Marc, Romain, Corinthiens, Philippiens, Hébreux. Ignace d'Antioche Martyr, qui, en 115, cite les évangiles de Matthieu et Jean. Les livres du Nouveau Testament ont été écrits de 44 à 95 environ, les derniers étant ceux de Jean. Au IVe siècle, Chrysostome écrivait que l'évangile de Jean avait été traduit en 5 langues, entre autres, syriaque, égyptien, indien, éthiopien. Au Ve siècle, la Bible est traduite partiellement en arménien. Au VIe siècle, en géorgien. Au IXe, en slave. Au Xe, en arabe et en anglo-saxon. Au XIIe, en provençal, Pierre Valdo, 1170. Et seulement au XIVe siècle, en 1380, en anglais par Wycliffe. En 1464, en allemand. En 1471, en italien. En 1475, en flamand. En 1477, en hollandais, et en 1487 en français par Jean de Rully. En résumé, à la fin du XVe siècle, la Bible, tout ou partie, était traduite en 24 langues et 8 dialectes. Du XVIe au XVIIIe siècle, le nombre des traductions n'augmenta que très lentement. Au début du XIXe siècle, la Bible n'était traduite qu'en 64 langues. À partir de ce moment, l'immense travail de traduction s'accéléra considérablement, grâce à la Société biblique britannique et étrangère, fondée en 1803. Au début de notre XXe siècle, il existait 116 versions complètes de la Bible, 116 versions du Nouveau Testament, et 226 versions partielles du Nouveau Testament, en tout 458 langues. À titre de comparaison, Homère a été traduit en une trentaine de langues, Shakespeare environ 35. Pendant ces 40 dernières années, la Société biblique britannique et étrangère et d'autres institutions semblables ont fait un effort considérable pour traduire la Bible, et aujourd'hui, la parole de Dieu, totalement ou partiellement, est diffusée dans toutes les parties du monde en plus de 1000 langues et dialectes. Plus de 2000 linguistes et missionnaires poursuivent ces travaux malgré les énormes difficultés dues au fait qu'un grand nombre de langues parlées par des peuples n'existent qu'à l'état oral et sont souvent incapables d'exprimer des notions abstraites. Encore un mot, avant de terminer, sur la diffusion de la Bible. Trois moyens sont employés. Premièrement, les dépôts bibliques, dont il existe plusieurs centaines dans toutes les principales villes, voire même dans les endroits les plus reculés de la terre. Deuxièmement, le concours prêté par les imprimeries directement aux églises et aux missions. Troisièmement, le colportage. Il n'y a pas de ministère plus émouvant, plus direct, plus fécond peut-être que celui du colporteur. Celui-ci n'est pas nécessairement un évangéliste. Il doit non seulement vendre la parole de Dieu, mieux vaut vendre à bas prix que donner, c'est une certaine garantie que la Bible sera respectée, mais la faire aimer, la présenter avec conviction. Aujourd'hui, des milliers de colporteurs dans toutes les parties du monde accomplissent humblement et fidèlement ce précieux service. Et nous, chers jeunes amis, quelle part apportons-nous dans tout ce travail, si directement en relation avec la source de toute bénédiction, le fondement de notre foi, de notre espérance, de notre bonheur présent et éternel? S'enlèvera-t-il parmi nous, véritable témoin de la Bible, qui, après avoir joui pour eux-mêmes des trésors qu'ils y auront découverts, auront à cœur de porter le flambeau de la vérité sur les chemins de cette terre? Pour faire connaître l'insondable amour de Dieu en Jésus à tant d'âmes encore plongées dans les ténèbres toujours plus épaisses qui envahissent notre pauvre monde? Et surtout, au milieu du désarroi actuel, souvenons-nous que le Seigneur Jésus a dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point » Matthieu chapitre 24 verset 35.